Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons Julien Danier pour la deuxième partie de l'interview réalisée en sa compagnie. Alors, Julien Danier travaille dans un service d'analyse et de prospective à l'administration générale de l'enseignement. Il avait participé au cours des derniers mois à plusieurs colloques ici à l'ULB, notamment le colloque école qui avait tenté de faire un état des lieux sur la question des ségrégations dans l'enseignement secondaire en Belgique. Il a aussi participé à la journée d'études de la coalition des parents de milieux populaires et qui a eu lieu en novembre. Et c'est plus sur cet élément-là que va porter l'interview, enfin la partie d'interview que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. La semaine dernière, il avait abordé tout ce qui touchait aux inégalités scolaires, en se basant notamment sur les grandes enquêtes internationales, les différences entre la Belgique et ses pays voisins immédiats. Ici, en fait, c'est plus sur un travail vraiment réalisé au sein de l'administration qu'il va se pencher, et plus précisément le lien qui existe entre la réussite du CEB et le fait de se retrouver dans une école à indice socio-économique faible ou non. Voilà, donc je vais lui laisser la parole tout de suite, Julien Danier, qui va donc nous expliquer bien ce qu'il a, comment fonctionnent les rassemblements de données auprès de l'administration et à quoi tout ça peut servir, comment ces données peuvent être utilisées pour éclairer certaines problématiques.
Donc les données d'administration, c'est des données qui ont des finalités administratives principalement. C'est-à-dire que pour organiser les écoles, il faut collecter plein de choses. Alors quand je dis organiser l'école, c'est financer les enseignants, c'est financer les écoles, enfin subventionner les écoles, c'est suivre les élèves scolaires, les élèves qui doivent être inscrits, je veux dire, dans leurs écoles. Et donc il y a une série d'applications qui servent à gérer tout ça, à inscrire les élèves. Et tout le financement de nos écoles et aussi le financement comparatif par rapport à la communauté flamande, puisque une des principales sources, en tout cas historiquement, qui est le comptage, nous permettait la répartition des moyens entre communautés. Et donc on a une série de données qu'on peut après mobiliser pour des finalités autres. Donc c'est là, c'est très bizarre la façon dont on construit les données dans l'administration, c'est-à-dire c'est des données à des finalités administratives, c'est ce qui garantit aussi leur qualité, c'est-à-dire ces données qui doivent porter sur la majorité des élèves, hein. En général on essaie d'être exhaustif à l'administration, elles sont vérifiées, et donc on a des données qui sont assez propres comparativement à une collecte. Mais à côté de ça, on n'a pas beaucoup de données, puisque les écoles ont d'autres choses à faire que remplir des applications, et donc il y a toute une série de choses qu'on ne collecte pas parce que ça n'a pas d'utilité administrative. Alors parfois on essaye, hein, parce que parfois ça peut être intéressant au-delà de l'utilité administrative. Mais donc à l'administration, les données, c'est des échanges entre l'école les écoles et les administrations, des validations, des allers-retours pour valider les données, et puis des transformations pour les différents usages, dont le nôtre, c'est-à-dire l'analyse. Et pour arriver jusque-là, il faut transformer, il faut anonymiser, puisqu'on a tendance à travailler sur des données anonymisées, hein, puisqu'on n'a aucun intérêt à avoir des données de personnes, de pouvoir identifier des gens. Et donc pour des questions de sécurité, on travaille sur des données anonymisées. Donc tout ça, c'est des étapes qui prennent du temps. Et puis il y a un énorme champ aujourd'hui, c'est d'essayer de lier à des fins d'analyse des données qui n'étaient pas liées. C'est intéressant de savoir quel élève appartient à quelle école, savoir si un élève, d'année après année, il a suivi tel parcours scolaire, de pouvoir relier ça à ses résultats, par exemple. Et donc tout ça, c'est des dispositifs à mettre en place dans un cadre sécurisé, puisque évidemment la liaison est faite à des fins d'analyse et n'est pas nécessairement reconstruite en dehors. Voilà, ça c'est à l'administration. Mais à côté de ça, il y a des données de collecte. Il y a toujours eu quelques collectes, mais on recourt de plus en plus régulièrement à des données de collecte parce que ça coûte une fortune de constituer des données. Hein. Je le dis, mais c'est des sommes qui peuvent être phénoménales. Et donc, collecter des données auprès de 900 000 élèves, c'est impossible parce que ça coûte trop cher. Ça demande trop de travail aussi à tout un tas de personnes. Et donc, la collecte est intéressante à ce point de vue-là, puisque ça permet de collecter sur un nombre limité de personnes des données plus riches avec des coûts qu'on essaie de maîtriser. Et donc là, la procédure est différente puisque la finalité n'est pas administrative et donc là, la procédure est autre. C'est une procédure plus classique dans la recherche, par exemple. L'idée, c'est d'avoir une question que l'on construit sur base théorique, sur base de différentes consultations, etc. Et sur base de cette question qu'on a construite, c'est d'identifier alors des questions à poser et une série de données à collecter. Et alors là, on va avoir une construction de questionnaire et puis une collecte auprès des écoles. Ça veut dire qu'il faut mobiliser éventuellement différents canaux de communication, aller chercher la participation des personnes qu'on veut interroger. Et ça se construit alors plus comme une collecte dans la recherche. Et puis pour finir, on doit traiter les données pour les rendre utiles et utilisables. Voilà les deux grandes façons de faire, et puis on peut s'amuser à hybrider, c'est-à-dire trouver des données administratives qui ont tendance à être... L'intérêt des données administratives, c'est qu'elles se reproduisent année après année. On fait rarement une collecte année après année, la même, qui ne bouge pas. C'est le cas des administrations, des données administratives, et donc il peut y avoir des hybridations où on lie ces données-là à des collectes particulières qui permettent d'amener un matériel supplémentaire.
Et du coup, dans le cadre de votre travail sur les inégalités scolaires, qu'est-ce qui a servi de matériau
de base?
De base? Ah, on en a plein. On en a plein. Alors, côté administration, pour changer, pour ne pas parler de PISA, y a depuis longtemps, depuis 2003-2004, je mentionnais le comptage qui servait à distribuer les moyens entre communautés, on a là quelque chose d'une source assez intéressante. C'est-à-dire qu'on sait où chaque élève est inscrit, c'est-à-dire dans quelle année d'études, dans quelle école, dans quelle section, forme, voire option. Ça c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis assez longtemps, on sait lier ça à l'année suivante, et donc on sait reconstruire des parcours d'élèves. Et donc ça, sur la question des inégalités, c'est assez intéressant, parce qu'on peut voir, sur le long terme, c'est une carrière scolaire, c'est 12, 15 ans, voire plus, si on continue ses études, on peut reconstruire toutes les étapes qui ont été suivies par un élève, s'il a redoublé ou pas, par exemple, s'il s'est orienté ou pas, s'il a changé d'école. Et donc ça nous a par exemple permis de travailler beaucoup sur le redoublement ou le retard scolaire. De remarquer par exemple, et donc ça c'est attesté à la fois par les indicateurs d'enseignement depuis longtemps, mais aussi par toute une série de publications, pas que de l'administration. Et donc on peut observer et quantifier de façon assez précise le fait que les élèves orientés par exemple vers la qualification ont tendance à présenter un retard scolaire plus important parce qu'ils ont beaucoup redoublé avant et qu'ils se remettent à redoubler après parce qu'on va utiliser ces outils, l'école va utiliser ces outils, par exemple le redoublement en amont et en aval de l'orientation. Donc ça c'est des mécanismes qu'on peut mesurer. Et puis on peut se demander, mais pourquoi ces parcours, est-ce qu'ils sont plus souvent observés chez certaines populations que chez d'autres? Et on a par exemple un outil qui permet de mesurer le niveau socio-économique des écoles et des quartiers. On n'a pas au niveau individuel. Il y a des défis techniques aujourd'hui qu'on n'a pas encore résolus. Construire un indice socio-économique individuel, c'est très compliqué. C'est une des qualités de PISA, il dispose d'un indice socio-économique individuel, on ne l'a pas à l'administration. Parce que cette construction sur tous les élèves, ça ne pose pas les mêmes défis techniques. Mais on a quand même, dans le cadre de l'encadrement différencié, on a quand même créé un indice au niveau des quartiers de résidence. Donc il y en a à peu près 20 000 en Belgique, donc c'est une unité qui est assez précise en ville, mais qui est quand même mixte. Si je prends un bloc de maison, on peut avoir des niveaux socio-économiques très différents. Alors, cet outil-là, on a pu quand même le croiser au parcours scolaire pour montrer que les élèves qui sont orientés ou qui s'orientent vers le qualifiant présentent aussi des profils socio-économiques plus défavorisés. C'est vrai aussi pour le spécialisé. L'enseignement spécialisé accueille des élèves qui viennent de milieux socio-économiques plus défavorisés. Alors c'est questionnant forcément. On se demande est-ce que ça devrait être lié à ça? Et donc il y a tout et ça a créé des questions. Donc ça c'est intéressant. Et donc ce type de données-là, elles existent et on peut creuser un peu sur les inégalités parce qu'on a des outils qui sont pas parfaits, mais qui existent quand même et qui permettent de quantifier ces parcours scolaires. Alors aujourd'hui, on arrive à lier d'autres choses à ces parcours scolaires, et donc ça, c'était un des usages récents qui est intéressant et prometteur, c'est qu'on s'est lié maintenant les parcours scolaires à certaines mesures au niveau de la carrière, c'est-à-dire l'obtention du CEB et les résultats au CEB, mais c'est aussi le cas pour les résultats au CE1D et l'obtention des diplômes terminaux, donc les CSS, CQ et CE. Et donc, on peut commencer à analyser ce type de choses. Alors, on n'a pas grand-chose autour pour venir alimenter venir nos données, mais on est capable de voir le lien entre les parcours, la réussite et certains indicateurs d'origine sociale, par exemple. Et donc ça permet d'objectiver des nouvelles choses en matière d'inégalité scolaire. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de venir coupler ça à des prises de mesures ou à des enquêtes quali ou quanti, hein, peu importe, mais au niveau de ce qui se passe dans les écoles, pour aller au-delà, évidemment, des constats qu'on peut poser d'un point de vue statistique.
Alors, vous abordiez, Julien Danier, la possibilité de justement se faire croiser des chiffres. Ouais. Et c'est justement ce que vous avez fait dans tout un travail que vous avez présenté il y a maintenant quelques mois ici à l'ULB, dans le cadre d'une journée de réflexion sur, entre autres, les inégalités scolaires. Donc, dans ce travail d'analyse de données, vous vous êtes concentré sur les chiffres d'obtention du CEB. Alors, pourquoi avoir d'abord mis le focus sur la fin des années primaires ?
Alors, le CEB, il a quelques qualités. Et donc, c'est un outil intéressant en matière d'analyse, je veux dire. Alors la première chose, c'est que c'est une épreuve qui est costaude. Elle couvre plusieurs matières, hein, maths, français, éveil. Elle mesure ces matières avec un nombre important de questions. Et donc ça a une certaine fiabilité. Et ça, c'est intéressant déjà. On en dispose pour tout le monde, on en dispose depuis un certain temps. Et il a d'autres qualités. Par exemple, il y a une correction qui est relativement structurée, qui est faite par les profs, mais pas les profs des élèves. Il y a une remontée à l'administration qui est aussi faite de façon intéressante. Il est prétesté. Et donc, il y a une série de qualités qui en font un outil robuste pour ça. Et en plus, depuis quelque temps, on arrive à le lier à nos autres données. Et donc, le CEB, c'est un outil qui était chouette à utiliser, qui est intéressant. Il se passe à la fin du primaire, donc avant le secondaire, où il va avoir des enjeux d'orientation. Il est orienté sur des savoirs de base qu'on est censé avoir acquis. Et donc, il est bien situé. C'est des élèves de 6e, donc c'est pas toujours facile de collecter des niveaux auprès d'élèves plus jeunes. Donc, il y a des enjeux aussi de comment on construit l'information. Et donc, à cet endroit-là, avant le secondaire, de la manière dont il est construit, c'est un outil, c'est un bon outil. Et donc, on voulait l'exploiter. Et ça permettait, donc souvent dans les modèles statistiques, on essaye... Donc, ce qui est reproché, par exemple, à PISA, je vais essayer de prendre un exemple. On va regarder, on va mesurer les inégalités scolaires, donc les inégalités de réussite, en lien avec l'origine sociale. Mais elles se sont pas... elles n'ont pas commencé à 15 ans. Elles viennent sédimenter des pratiques, des orientations, toute une série de choses qui se sont passées sur les 15 années précédentes, grosso modo. Et en partie à l'école. Mais la critique, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on mesure l'effet de l'école sur 15 ans de choses qui se sont passées sans mesure préalable ? Et donc, on aime bien essayer de trouver une mesure d'effet et une mesure préalable pour contrôler un moment, dire... À ce moment-là, je sais qualifier mes élèves. Le CEB, c'est intéressant parce qu'on peut, à un moment, qualifier en fin de primaire les élèves et puis regarder ce qu'ils deviennent et voir quels sont les résultats après. Et donc, il y a comme ça une antériorité du CEB par rapport à ce qui va se passer dans le secondaire. Et donc, ça faisait de nouveau, ça fait partie des choses qui faisaient que c'était une entrée intéressante. Et donc, voilà. Et donc, on a essayé de regarder comment ce qu'on pouvait dire des inégalités au niveau du CEB. Et la stratégie un peu original qui était rendu possible parce qu'on avait des nouvelles données et un nouveau dispositif qui permettait de le faire, c'est se demander est-ce que les résultats au CEB vont être associés à ce que l'élève va faire 2-3 années après. Alors évidemment, ce qu'il va faire ne dépend pas que de ses résultats au CEB, mais c'est intéressant de voir s'il y a un lien. Et donc ça, c'était l'exercice qui avait été fait pour il y a quelques mois. Et donc, c'était d'abord de voir s'il y a des écarts de réussite au CEB, et puis de voir si ces écarts de réussite sont associés à des écarts de parcours. Mmh.
Et... Quand vous parlez d'écarts de réussite, c'est écarts de réussite en fonction du profil socio-économique des élèves.
Là, c'est ce qu'on... Donc, déjà, les écarts de réussite. C'est déjà intéressant de savoir que tous les élèves n'ont pas les mêmes résultats au CEB. Hein. Ça serait chouette hein, si tous les élèves réussissaient bien au CEB, mais ce n'est pas le cas. Il y a des élèves qui vont réussir bien, voire très très bien, avec des résultats supérieurs à 80%. Et à l'opposé, il y a des élèves qui vont réussir, voire pas réussir, hein, voire réussir avec des résultats plus faibles, autour des 50-60%. Et donc ça se distribue, mais ça se distribue pas n'importe comment. Lorsqu'on regarde comment ça se distribue, on remarque ce qu'on avait fait comme exercice, c'était de voir selon le quintile socio-économique de l'école. Pour l'expliquer, c'est si j'ordonne les écoles ou les implantations scolaires ici selon leur niveau socio-économique dont on dispose pour l'encadrement différencié, et que je fais des groupes de 20% d'élèves, donc je prends les écoles qui scolarisent 20% d'élèves et puis... Enfin, etc. jusqu'au cinquième quintile, ben, j'ai 5 groupes de 20% d'élèves, le groupe 1 étant celui de niveau socio-économique le plus bas. Bon, j'espère que c'est bien expliqué comme ça. Mais donc si on compare ces quintiles entre eux, donc ces écoles de niveau socio-économique différents, on remarque déjà ben, qu'au sein de chaque groupement, ben, on a des élèves qui réussissent bien et des élèves qui réussissent mal. Hein, mais par contre, que la réussite a tendance à être plus faible dans les écoles défavorisées que dans les écoles favorisées. Et donc on voit une progression avec le niveau socio-économique des résultats scolaires. Dans les écoles favorisées, le résultat est meilleur. Mais pour autant, il y a des élèves qui réussissent mal et des élèves qui réussissent très bien dans les écoles favorisées. Donc voilà, donc il faut juste se rappeler qu'il y a de la diversité dans les différents groupes, mais il y a quand même une tendance liée à l'origine sociale.
Ça se retrouve aussi dans les écoles les moins bien classées, aussi, des élèves qui réussissent très bien et des élèves qui réussissent très mal. On ne peut pas juste faire un effet miroir ?
Non, on a une proportion importante d'élèves qui ont plus de 80% dans les écoles défavorisées. Et on parle bien d'une... Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des interros dans les classes, hein, on parle bien d'une épreuve standardisée que tous les élèves passent. Et donc, on a de la réussite dans tous les groupes. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, je regarde là le premier quintile où la réussite moyenne, c'est 65%. La réussite moyenne dans le dernier quintile, celui des écoles les plus favorisées, est légèrement au-dessus de 79%. Donc, on a une différence qui est quand même notable. Mais pour autant, au niveau individuel, on a des élèves qui réussissent bien aussi dans les écoles défavorisées.
Alors, à partir du moment où on a ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, la suite du projet, c'était de voir si, compte tenu qu'on sait d'où viennent les élèves, donc compte tenu du niveau socio-économique de l'école dans le fondamental, enfin en sixième primaire, et compte tenu de leurs résultats, ici les résultats dont je parlais, c'est les résultats en français. J'avais choisi français parce que ça semble être une bonne entrée dans les apprentissages. Hein. La langue, c'est quand même une entrée particulière. On pourrait faire l'exercice avec les autres matières, ce qu'on fera, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Et donc c'était de dire, est-ce que au bout de 3 ans, le parcours est différent? Et donc les chiffres présentés comparaient. Parce qu'ici le but c'était d'avoir une présentation relativement simple. Après on peut construire des modèles statistiques plus compliqués, c'est ce qu'on fera, mais c'était pas le but en première approche, on va dire. Et donc c'était de comparer les élèves qui ont entre 60 et 70%, donc c'est pas des mauvais résultats non plus, hein, c'est pas des échecs, hein, c'est des élèves qui réussissent avec des résultats plus faibles que d'autres, et on va les comparer à ceux qui ont 80 à 90%. Et on va regarder, on peut déjà regarder, je vais commencer par là, et je prends mes chiffres. Et donc ce qu'on remarque, c'est que ces élèves qui ont 60 à 70% en français, eh ben 3 ans plus tard, dans le secondaire, si on n'a pas eu d'échec, si on n'a pas eu de redoublement, on est en troisième année, et donc on est soit en troisième année de qualification, soit en troisième année de transition. La transition, c'est là où on trouve le général et le technique de transition. Et la qualification, on y trouve le professionnel technique de qualification, au cas où ce n'est pas clair. 3 ans plus tard, lorsqu'on regarde les élèves qui avaient 60 à 70%, ils sont 32% en troisième général, ou en troisième de transition plutôt. Il y a un autre 30% qui est en qualification, et il y a un autre 30%, je vais dire, les chiffres sont un peu plus précis que ça, mais qui est toujours dans le premier degré, et donc qui est redoublé. Ce qui est intéressant, c'est que ces proportions ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde auprès des élèves, c'est 80-90 que j'avais pris. Auprès des élèves de 80-90, là, ces élèves sont 84% en troisième de transition. Donc, par rapport aux 30% des élèves qui ont obtenu 60 à 70%, 84%, c'est une différence énorme. En qualification, on trouve 10% d'élèves et on en trouve un peu moins de 5% qu'on redoublait. Et donc, c'est intéressant de voir que les parcours scolaires des élèves peuvent être très variés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dû à leur faiblesse en français, mais en tout cas, les élèves qui ont eu des résultats plus faibles en français ont des parcours qui sont quand même assez différents de ceux qui ont eu des bons résultats. Alors, il faut l'expliquer, on l'explique pas encore, mais en tout cas, le constat est intéressant. Alors, ça rejoint des choses qu'on sait sur les difficultés scolaires, mais qu'on n'avait pas objectivé de la sorte.
Est-ce que quand vous faites cette analyse, donc de regarder le parcours scolaire 3 ans plus tard de ces enfants qui ont... moyennement ou bien réussi leur CEB, quand on fait cette analyse, est-ce que vous la recroisez à nouveau avec des données socio-économiques ou pas? Donc, oui. Je veux dire, quand on voit votre 30-30-30, est-ce qu'il y a là-dedans des élèves qui... Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que les élèves qui étaient dans... les écoles les plus favorisées, comment formuler ça? Ceux qui étaient dans ces écoles-là, il y avait un petit pourcentage qui avait un résultat moins bon au CEB. Est-ce que eux, malgré tout, du fait d'avoir fait leur primaire et d'avoir été dans un environnement favorisé, se retrouvent plutôt dans la transition ou dans le qualifiant?
Alors, quand on croit ça, on voit un effet. Si je compare, je vais le formuler comme ça. Donc, ce que j'avais fait pour cette analyse, et qu'on compte à un moment publier par la suite. Hein. Pour le moment, on a des canaux comme les indicateurs d'enseignement où on peut publier nos chiffres. Pour le moment, ça ne l'est pas encore, mais comme je disais, c'est nouveau. Mais donc, ce qu'on fait et ce qu'on a fait là c'est on a croisé ces deux choses. Donc, on a croisé le niveau social, enfin le niveau socio-économique de l'école en sixième primaire et les résultats. Et donc, on voit qu'il y a une distinction qui persiste. Et donc, si par exemple, je compare ces élèves plus faibles de 60 à 70% et que je regarde ceux qui étaient dans le premier quintile dont je parlais tantôt et ceux qui sont dans le cinquième quintile socio-économique, on a des différences. Alors, elles restent importantes. Et donc, par exemple, pour le nombre d'élèves, la proportion d'élèves qui ont redoublé durant ces trois années de secondaire. Les élèves qui viennent d'une école défavorisée avec des résultats de 60 à 70% sont 40% à avoir redoublé les trois années suivantes. Si on regarde dans le quintile plus favorisé, ils sont que 26%. Donc il y a une différence importante et on a un maintien moins important une arrivée moins importante dans le deuxième degré de transition. Et on peut regarder de l'autre côté, les élèves avec une réussite plus élevée, ceux qui avaient 80 à 90% en français. Dans les écoles les plus favorisées, ils sont 91% à être en troisième de transition. Donc c'est la grosse majorité des élèves qui est en troisième de transition. Et le même taux est de 75% dans les écoles défavorisées. Donc ça reste un taux très important, mais on voit quand même qu'il y a 15% de différence et que c'est pas négligeable. Ça peut s'expliquer de plein de manières différentes, parce que ce qui se passe dans le fondamental se passe aussi, évidemment, sur les trois années du secondaire. Les élèves qui viennent éventuellement avec des difficultés, peut-être des difficultés dans d'autres matières, vont devoir faire avec ça dans le secondaire. Et vont peut-être fréquenter des contextes différents, avoir un encadrement différent, etc.
Oui, effectivement, parce que c'est important de le rappeler. Donc ici, c'est pas sur l'entièreté des points du CEB que le travail avait été fait, c'est sur le français. Le français étant cependant un bon indicateur, puisque une des problématiques qui est souvent relevée dans le secondaire, c'est le fait que les élèves ne comprennent pas les consignes, et donc c'est une lacune linguistique au départ.
Oui, mais le français, ici c'est un outil utile puisqu'il montre quelque chose, et donc ça marche d'utiliser le français pour voir des différences. Après, ça a des limites parce que c'est que le français. Mais pour entrer dans un savoir qui est formulé en français, qui est quand même fortement lié à l'écrit, parfois formulé de manière complexe, parce que ici on donne des résultats moyens en français, mais des résultats ces résultats en français cachent peut-être la capacité à comprendre des choses complexes, à pouvoir s'abstraire. Et il y a toute une série de choses qui sont liées à son niveau de français et toute une série de mécanismes plus complexes d'entrer dans le savoir. C'est un outil qui est utilisé tout seul pour le moment. L'idée, c'est d'alors aller sur des modélisations statistiques plus importantes où on peut amener les différentes matières voir les effets respectifs de chacune des matières et combiner, etc. Donc ça, c'est faisable, mais ça demande la mobilisation de méthodes un peu plus compliquées, complexes et de temps pour le faire. Et donc ça, c'est ce qu'on prévoit de faire par la suite. Et donc on peut arriver à des modèles multivariés et des modèles statistiques un peu plus solides. Ici, c'était une approche assez descriptive et exploratoire, on va dire, à ce stade.
Qu'est-ce qui fait que justement cette analyse a été possible en 2025? Est-ce qu'il y a des données qui vous sont arrivées qui n'étaient pas disponibles auparavant ou une volonté peut-être de travailler sur cette thématique-là?
Un peu de tout. Il y a eu du travail. Donc en fait, il y a des évolutions techniques. On n'est plus en 2010 et en 2025, on n'a pas les mêmes données. Par exemple, les données récoltées auprès du CEB se sont grandement améliorées, sont rentrées dans des bases de données structurées avec des éléments qui permettaient la liaison. Donc ça, c'est des choses qui ont 10 ans, grosso modo, le développement de ça, même moins que 10 ans. Donc il y a des évolutions techniques sur les données. En particulier, il y a eu un projet qui a été mis en place suite au pacte de liaison de ces données. Donc on avait des données, donc des données administratives issues de différentes sources, mais qui ne sont pas connectées entre elles. Et donc, à un moment, on se disait, mais c'est un matériau qui est intéressant, il faudrait le connecter. Et donc là, il y a des collègues qui travaillent dessus. C'est un travail assez important, parce que ces choses-là ne sont pas automatiques. Et donc, il faut mettre en place tous des flux de données qui permettent des liaisons, vérifier que ça se passe bien. Et évidemment, ça ne se passe jamais bien au départ. Et donc, il y a des allers-retours et des travaux de vérification, de validation, et puis de création de nouvelles requêtes pour réussir à faire fonctionner les choses. Mais en définitive, ce projet qui a plusieurs années permet aujourd'hui de créer de la nouvelle donnée, en fait, simplement en liant des choses qui n'étaient pas liées avant. Et donc, c'est intéressant comme travail, et nous, ça nous donne des nouveaux outils. Donc voilà. Après, une fois qu'on a ces outils, on essaye de les interroger, de les utiliser. Et donc ça peut être très divers, la façon dont on choisit une thématique. Alors ça peut venir de demandes, soit au sein de l'administration, puisqu'il y a beaucoup de demandes de données, il y a beaucoup de projets qui veulent être alimentés par certaines analyses, donc on en reçoit. Parfois ça vient de l'extérieur, on a des demandeurs qui peuvent être des associations ou des étudiants, ou même des particuliers qui viennent nous poser des questions, et en fonction des ressources qu'on a, on essaie d'y répondre. Et parfois ça vient de nous aussi, lorsqu'on lit l'actualité, ou qu'on a des données qui deviennent, enfin des demandes qui deviennent récurrentes, on se demande si on peut pas construire un nouveau dispositif qui permette d'y répondre. Et donc c'est très varié, mais il y a eu des évolutions techniques et un gros travail en fait côté informatique pour nous mettre à disposition ces nouveaux matériaux.
Alors ici, avec la conclusion à laquelle vous arrivez sur base de cette analyse de données, donc croisant les résultats au CEB et les résultats 3 ans plus tard, à partir du moment où l'élève s'oriente en transition ou en qualification, là, vous avez ça. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ?
On essaie.
Non. On ne pleure pas. On découvre. C'est pas non plus. On ne découvre pas des choses qu'on ne savait pas. La connaissance fonctionne. Il y a parfois des moments où on a des chocs parce qu'on trouve des choses qu'on ignorait. Mais là, il y a des choses quand même qu'on savait. Il y a énormément de gens qui travaillent avec les élèves au quotidien, il y a pas mal de recherches, et donc ici on a objectivé, on a quantifié des choses qu'on connaissait, et c'est pas pour rien que il y a des discussions autour de ça, qu'il y a eu un pacte avec des constats au niveau du pacte pour un enseignement d'excellence, pardon. Mais donc voilà, donc on ne se met pas à pleurer parce qu'on sait que ça existe. Par contre, c'est intéressant parce que l'objectivation, elle va permettre d'être comparée par la suite. Ça permet de remettre la focale sur certaines choses. On pourra se demander dans 5 ans, est-ce que le constat est toujours le même. Et donc, ça rentre dans un attirail qui permet à la fois de réfléchir et peut-être d'alimenter les travaux d'autres personnes qui peuvent aussi travailler là-dessus. Donc voilà. Et puis nous, de notre côté, on va essayer d'affiner les analyses. On va essayer de les diffuser, de les publier, de venir alimenter les travaux d'autres. C'est un travail de soutien, de support, de se dire on va fournir des données et on va essayer de venir alimenter les travaux du politique, de l'associatif, etc. Et donc voilà, donc nous on ne s'arrête pas et on ne se fait pas pleurer, on essaie de développer les analyses parce que ça dit quelque chose et puis il y a plein de choses qui restent cachées et donc on va modestement essayer de continuer à travailler dessus et puis on essaye de passer ça à d'autres personnes qui pourront aussi travailler ça dans des réformes éventuellement, des formations, enfin il y a plein de choses qui peuvent avoir plein de débouchés suite à ça. Mais nous, on a une compétence d'analyse, mais pas une compétence de décision. Notre job, ce n'est pas d'aller trouver les solutions derrière, c'est de fournir, d'alimenter la réflexion. Donc il faut savoir aussi que ça s'arrête là. En tout cas, dans notre travail, ça s'arrête à ce travail d'alimentation de la réflexion.
Oui, mais je suppose que ça donne quand même envie, peut-être de croiser d'autres choses, en se disant, effectivement, vous le disiez, on savait que la situation était telle. Mais là, vous avez des données chiffrées qui permettent de montrer noir sur blanc qu'effectivement, c'était pas juste un ressenti. C'est le cas. Je suppose que ça donne envie de creuser plus loin.
Oui, mais ça nous donne envie d'amener des analyses un peu plus complètes, hein, parce que ici c'est assez partiel. Ça nous demande de reproduire, ça nous donne envie de reproduire ça pour voir l'évolution, parce que l'évolution est souvent intéressante par rapport à un constat. Il y a des choses qui changent, c'est intéressant de voir si ce qui change a une influence ou pas sur les inégalités scolaires. C'est intéressant de dire que ça a une influence ou ça n'en a pas. Peut-être qu'il faut réfléchir pourquoi ça n'en a pas. Donc voilà, donc, tout ça, évidemment, ça ouvre plein d'autres pistes pour la suite.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi et merci surtout à Julien Danier de m'avoir accordé cette interview. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Julien Danier, pour la troisième partie de l'entretien, partie qui, elle, portera plus précisément sur la ségrégation scolaire. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?